Du psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Nous avons traversé le carême et sommes entrés ce dimanche dans la grande semaine sainte, sommet de notre vie de croyant. Sommes-nous prêts à la vivre ? Dieu seul le sait. Mais que nous soyons prêts ou que nous pensions ne pas l'être, qu'importe. Je vous invite à une unique démarche, outre les célébrations qui rythment ces jours, ouvrir l'évangile de Jean et lire les chapitres 13 à 17 que l'on a coutume de lire la nuit entre jeudi et vendredi saint. Lisez ces chapitres une fois, plusieurs, lentement. Glissez-vous dans ce texte, vraiment. C'est ces chapitres que je vais suivre ce midi par petits bouts, quatre petits bouts. Tout d'abord, aimer jusqu'à la fin. Chapitre 13 de l'Évangile de Jean, verset 1, que nous entendrons jeudi. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Voilà comment s'ouvre la porte du Saint des Saints. Au cours d'un repas, alors que Judas, un des siens, un de ses tant aimés, vient de le vendre, Jésus se lève et dépose ses vêtements. Jésus se lève et dépose sa vie. Il dépose sa vie entre les mains des siens, comme aujourd'hui encore, il dépose sa vie entre nos mains. Nous sommes dépositaires de la vie du Christ. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples. Alors prenons le temps, mes amis, d'être là avec lui. Voilà Jésus, la parole de Dieu faite chair, la miséricorde de Dieu, lui, l'incarnation de la sagesse qui s'ébattait en Dieu à la surface de la terre et trouvait ses délices parmi les enfants des hommes. Voilà Jésus qui se met à genoux devant les siens pour leur laver les pieds. Il se met à genoux devant chacun de nous, et y compris devant Judas, qui vient de le vendre, et Pierre, qui va le trahir. Dieu à genoux devant l'homme. Voilà le visage de la miséricorde. Quand il se tient ainsi à ras de terre, Dieu se met à la bonne hauteur, afin que même ceux qui rampent d'effroi, de terreur ou de honte, afin que tous puissent le rencontrer. Les courbés, les vaincus, peuvent à ce moment-là regarder les yeux dans les yeux leur Dieu. Lorsque Jésus s'agenouille devant les siens, ce n'est pas seulement une leçon d'entraide qu'il nous donne. Combien réductrice est cette vision ? Non, quand il se met à genoux, Jésus offre le sacrifice d'action de grâce. Il s'offre, lui, en sacrifice d'action de grâce, afin de remercier le Père du cadeau que nous sommes pour lui. Il rend grâce à son Dieu d'avoir fait de la vie des hommes sa maison, de notre corps son temple. Si la création est la joie du cœur de Dieu, et si en son sein, l'homme est le bouleversement de ses entrailles. Aimer les siens jusqu'à la fin, c'est, je crois, les aimer jusqu'à ne rien retenir d'autre que la joie de leur présence, et louer le Père, ce que fait le Fils. Voilà ce que fait le Fils à cette heure si grave. Il continue de remercier son Père. Il s'agenouille devant le temple de Dieu que nous sommes. Alors il demande aux siens, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Tant il est vrai qu'il n'est pas sûr que nous osions aller jusque-là dans la compréhension de son geste. Et de poursuivre, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Voilà ce que nous allons célébrer jeudi. Le don que Jésus fait de sa vie, il le fait en remerciement. C'est un sacrifice d'action de grâce. Faire comme lui, c'est vivre de façon à ce que nos existences soient un remerciement offert à nos proches, pour les remercier d'exister, et dans le même mouvement d'offrande, un remerciement à Dieu. En ces jours saints, laissons le Christ nous regarder de la sorte. Laissons-le nous remercier, remercier son Père du cadeau que nous sommes pour lui. Ensuite, ne craignons pas de demander. Toujours l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 6. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce remerciement du Christ à son Père est en même temps une supplication pour tous, pour ceux qu'il aime. Souvenez-vous des sacrifices anciens et de la fumée qui s'en dégageait. Cette fumée qui montait vers le ciel était le signe de cette supplication. Et à la suite de tous ces prophètes de la première alliance, nous sommes invités à supplier notre Dieu pour ce monde. Lorsque Dieu décida de gommer Sodome de la carte, souvenez-vous, Abraham se mit à supplier Dieu d'épargner la ville s'il se trouvait en son sein 50 justes. Et Dieu accepta. Et Abraham le supplia d'épargner Sodome s'il y avait ne serait-ce que 40 justes et peut-être seulement 30, et ainsi de suite jusqu'à 10. Et Dieu accepta. Peut-être Abraham aurait-il pu continuer encore. Lorsque Moïse redescendit de la montagne avec les tables de la loi et qu'il vit son peuple en train de danser autour d'un veau d'or, il cassa les tables écrites de la main même de Dieu et supplia pourtant Dieu de ne pas détruire son peuple idolâtre. Et Dieu accepta, reçut de nouveau Moïse sur la montagne. Cette expérience de supplication avait transformé Moïse comme si la loi de Dieu était désormais inscrite en lui, dans son cœur. Aussi, ce fut lui, Moïse, qui, dans ce second temps, grava de sa main la loi dans la pierre qu'il redescendit. Le psalmiste, nuit et jour, parle à Dieu de ses joies, de ses malheurs, de ses questions, de son avenir, de ses regrets, de sa vie. Et nous-mêmes, combien sommes-nous à crier vers Dieu qu'il nous entende, à le supplier pour que la paix vienne, pour que le sang cesse, pour que les larmes cessent de couler. Ce sont toutes nos voix, toutes ces voix, toutes les voix de tous les hommes, de tous les temps, qui sont recueillies par le Christ à l'heure de sa passion. L'Épître aux Hébreux le proclame avec force. Au jour de sa chair, le Christ présenta un grand cri et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Dans ce cri de Jésus sont recueillies toutes nos larmes, tous nos cris, toutes nos supplications, toutes en lui sont accueillies, toutes sont reçues par le Père. Et voilà pourquoi il nous faut continuer de le supplier et de demander en son nom. La supplication est une œuvre de miséricorde majeure. Je vais même oser ce raccourci. Si nous sommes chrétiens, c'est pour cela, pour supplier notre Dieu pour ce monde. La tradition dominicaine aime à considérer la supplication comme le sommet de la contemplation. Supplier Dieu pour ce monde, pour que la paix vienne enfin, pour que les larmes cessent enfin, c'est aimer ce monde. Supplier Dieu pour ce monde, afin que les pécheurs tous soient saufs, y compris ceux qui sèment la terreur. Cela nous aide à voir le monde avec un regard de bonté. Et cela nous pousse à agir. Il ne faut donc pas opposer la supplication et l'action. Catherine de Sienne, une de mes copines, parce qu'elle priait Dieu de mettre fin à la déchirure de l'Église en renvoyant le pape illégitime, eh bien elle se tenait devant le tabernacle qu'elle frappait violemment en disant « Volo, je veux ». C'est en ces termes que le Christ nous invite à le supplier. En ce temps qui est le nôtre, dans lequel tant et tant souffrent et meurent, demandons au Seigneur la grâce qu'il nous donne cette même audace pour le supplier. Nous sommes en délégation, en vicariance. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie comme nous venons de le faire, nous offrons avec nos pauvres mains ce monde. Et par cette offrande-là, le monde est transformé par la grâce de l'Esprit qui envahit notre prière. Lorsque des prisonniers, fussent-ils meurtriers, célèbrent l'Eucharistie en prison, ce monde est transformé par la grâce de leur prière, habitée par l'Esprit. C'est là le sens de l'Église, être là, au pied de la croix du Seigneur, pour tous. Pierre, dans sa seconde épître, Pierre qui sait ce que c'est que trahir, Pierre nous dit que la prière des hommes peut hâter la venue du jour de Dieu. Rien de moins que cela. Le livre de l'Apocalypse aussi, au chapitre 8, met en scène des anges qui offrent de l'encens, et cet encens se mêle à la prière des saints pour hâter l'avènement du jour de Dieu. Et lorsque mystérieusement des hommes, des femmes, enfermés dans la solitude, le grand âge ou la maladie, offrent à Dieu leur vie, et leur vie souvent meurtrie, pour qu'elle brûle en offrande, le salut, mystérieusement, est hâté pour notre monde. Écoutons encore Saint Jean au chapitre 16, verset 24. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Et plus loin, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Oui, il faut demander à Dieu ce que nous voulons qu'il nous donne. Le prier pour ce monde, pour que son règne vienne et que son nom soit sanctifié, pour que sa volonté soit faite, aussi bien dans le ciel que sur la terre, pour que le pain nous soit donné pour ce jour et cet autre pain qu'est le pardon. Il faut demander à Dieu qu'il nous garde de la tentation et du mal, et plus que tout, qu'il nous donne son esprit. La miséricorde de Dieu, c'est le règne du combien plus. La manière dont Dieu prend sa revanche, je vous l'ai dit souvent, est d'arrêter sur lui l'insulte pour la porter, lui, sans la transmettre, faisant ainsi échec à l'accusateur. Nous nous durcissons. La façon de combattre de Dieu est de se faire plus doux qu'un agneau. Nous calomnions. Sa façon de nous réveiller est de se laisser accuser jusqu'à être confondu avec les bandits. Nous nous entretuons. La façon de nous vaincre de Dieu est de ne pas résister aux méchants et d'en mourir. C'est la logique du combien plus. Tout cela, il le fait par amour, pour nous délivrer de la dureté, de l'accusation, de la mort. Si par méconnaissance nous l'oublions ou le renions, combien plus va-t-il déployer des trésors d'ingéniosité pour nous rattraper par les cheveux ? Car il aime chacun d'un amour si grand que chaque cheveu de chacune de nos têtes est compté. Que craindre, puisqu'il se déclare pour nous devant son Père ? Qui peut renier, en connaissance de cause, un Dieu d'une telle bonté ? Alors, faisons un pas de plus et entrons dans la prière du Fils unique. Oui, dans la prière du Christ sont contenues toutes nos prières. Aussi bien, s'il nous promet de demander ce que nous voulons, combien plus est-il entendu par son Père quand c'est lui qui prie dans le secret ? Arrêtons-nous et prêtons attention à ce sommet de l'évangile de Jean, qu'est le chapitre 17, la prière du Fils au Père. Écoutez bien, Judas vient de vendre Jésus et Pierre va le trahir. Et voilà ce que dit Jésus. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est bouleversant et saisissant. Il n'y a pas dans ces phrases une once de ressentiment. Même pas une once d'excuse, du genre « ils n'ont pas tout compris, mais quand même, pardonne-leur », non. Jésus, dans sa prière, se porte garant des hommes, de nous, de chacun de nous, à l'heure même de la trahison. Il assure à son Père que les siens ont cru, qu'ils ont gardé sa parole. Voilà le socle de toute foi. Le Christ croit en nous. Et il ne nous est demandé désormais qu'une chose, croire qu'il croit en nous, croire que c'est bien vrai qu'il croit en nous. Tu penses ne pas être à la hauteur, les apôtres non plus, et cela ne change rien. Non seulement Jésus a déjà tout pardonné, mais la trahison n'existe même plus dans sa prière au Père. Il nous justifie. Tu penses que tu ne sais pas aimer. Ne te juge pas toi-même. Désire seulement aimer. Et déjà, cet amour que de vouloir aimer. Le Christ croit en ta capacité d'aimer et cela seul suffit. Ce passage de Jean me bouleverse. Mes amis, n'attendons pas que nos doutes se desserrent pour croire. N'attendons pas d'être aimés pour aimer. N'attendons pas de savoir prier pour prier et supplier ce monde, pour ce monde. Tout cela, le Christ nous dit qu'en lui, nous n'avons rien à craindre, que c'est son souffle de vie qui prie en nous, qui croit en nous, qui affermit nos vies. Le Christ est notre avocat, notre défenseur, et l'esprit qu'il nous promet, que nous avons reçu, c'est celui qui nous donne d'entrer dans ce mystère. Voilà tout l'amour de Dieu dévoilé entre ces deux moments, entre Jésus à genoux devant les siens, qui remercie son Père pour nous, et Jésus qui supplie son Père pour nous, en nous justifiant. Mais il nous faut, et ce sera mon dernier temps, avec lui, passer par la nuit, Et la nuit du monde est longue et difficile. La nuit du monde ressemble à s'y méprendre certains jours, et peut-être ce matin spécialement, quand on pense aux attentats de Belgique. La nuit du monde ressemble à s'y méprendre à un immense échec, à un tombeau rempli, dans lequel se tient le bien-aimé, à une énorme déception. Cette nuit d'épreuve qui a enveloppé le Christ dans son linceul, il a prié pour qu'elle ne nous fasse pas trembler, car il connaît nos peurs, notre tristesse, notre effroi. Alors écoutons à nouveau Saint Jean au chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. Puis au chapitre 17, versets 9 à 11, en parlant à son Père de nous, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous. Père Saint, garde-les, y compris dans la nuit, y compris aux enfers, y compris à l'heure où nous péchons. Voilà la grande prière que le Christ a jetée sur nous comme un manteau. Père Saint, garde-les. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. En pensant à ce monde, à nos vies, il me semble que nous pouvons à notre tour supplier le Père, blotti dans la prière du Fils. Père Saint, garde-nous. Et dans ce « nous », c'est le monde entier, tous les hommes et toute la création que nous voudrions embrasser. Garde-nous tous, hors de la guerre, hors de la division, qui que nous soyons, garde-nous dans l'unité. Et si nous avons l'impression que Dieu s'est effacé, que notre âme, notre vie est en enfer, persévérons dans cette prière comme le fit le moine Silouane du mont Athos, qui finit par recevoir dans la foi, dans la nuit, cette parole « Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas ». Mes amis, dans cette longue nuit de 3 jours que nous célébrons cette semaine, nous fêtons le Christ qui descend aux enfers, pour que plus jamais les enfers de nos vies ne soient privés de sa présence. Alors il nous faut veiller. La bien-aimée du Cantique des Cantiques est partie à la recherche de son bien-aimé. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. On a coutume de penser que la bien-aimée, c'est le peuple ou l'âme qui cherche Dieu, son bien-aimé. Mais Yves Simon, c'est encore lui, a le génie de montrer que c'est peut-être aussi une figure de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu, du Christ qui part à notre recherche. Peut-être c'est Dieu qui dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime » en pensant à nous. La Bible, si elle raconte l'histoire de l'homme qui cherche Dieu, raconte plus encore l'histoire de Dieu qui cherche l'homme. « J'ai cherché celui que mon cœur aime. » Voilà ce que dit notre Dieu. À l'heure de la Passion, tout est accompli. Écoutons encore le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. « À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Le fils bien-aimé du père, le bon berger, a retrouvé la brebis perdue. Le bien-aimé a retrouvé sa bien-aimée. Il est allé la chercher jusqu'au fond de la nuit, jusqu'au fond des enfers. Il ne la lâchera plus. Il ne nous lâchera plus. Dans la grande nuit du samedi saint, des femmes veillaient. Marie de Magdala et la mère du Seigneur, unies dans une même peine et dans le même amour, veillaient pourtant. Lorsque la grande nuit du samedi saint s'étend et dans nos vies et sur le monde, des hommes, des femmes, celles et ceux qui ont rencontré le bien-aimé, veillent. Ce sont ces femmes, ces hommes, que l'on retrouvera au grand matin de Dieu dans le jardin du premier jour du monde. Et c'est Marie de Magdala, elle qui a tant aimé, qui la première, nous dit Jean, sera nommée et retournée par son bien-aimé, son maître et son Seigneur. Mes amis, mes frères, mes sœurs, en cette grande semaine, soyons Marie de Magdala, sûre de l'amour de son Seigneur, qui a transformé toutes ses blessures en pierre d'attente de la joie éternelle. Soyons le disciple bien-aimé au pied de la croix, lui qui n'a pas de nom, afin que chacun de nous puisse se glisser à sa place. Soyons la mère de Jésus, qui à l'heure ultime continue d'enfanter le Verbe et de le donner au monde. Veillons, veillons sur notre monde déchiré et sur ses habitants. Restons au pied de la croix de notre Seigneur, là où Dieu lui-même accepte d'être déchiré. Entrons dans la grande veille, assurés de ce qu'en ce mystère, l'amour déchirant de Dieu qui tient le monde n'est pas déchiré. Veillons, fermes dans l'espérance, inébranlables dans la foi, généreux dans la tendresse. La victoire est certaine, la victoire a eu lieu. La joie de Dieu, mise en réserve, sourd dans les tréfonds du monde, dans le silence encore, elle ne concède rien aux forces de mort qui tentent de nous réduire en esclavage. Mais sans bruit, la joie de Dieu tient bon, elle nous attend. Oui, Dieu souffre l'homme, le temps nécessaire qu'il faut à l'homme pour croire à la joie. Cette joie aujourd'hui comme hier, a les larmes aux yeux, elle a traversé la mort, elle est humble, mais elle est victorieuse. Veillons, et ne soyons pas seulement Marie de Magdala, le disciple bien-aimé ou la mère du Sauveur. Soyons le Christ lui-même. Veillez au pied de la croix, veillez dans la nuit, veillez à l'heure de la mort, veillez aux enfers. C'est devenir Christ pour ce monde. Devenons ensemble le corps du Christ, livré pour ce monde. Et faisons de nos vies une offrande au cœur même, au sein même de l'offrande que Jésus fait de sa vie. Et disons avec lui, ceci est mon corps, livré pour vous. Voilà, je crois, l'ultime œuvre de miséricorde qu'il nous faut humblement, modestement, vivre chaque jour. Mes amis, en ces jours, soyons la prière du Christ pour ce monde. Et avec lui, mettons-nous à genoux. Avec lui qui est Dieu agenouillé devant l'homme, remercions notre Père du cadeau qu'il nous fait en Jésus-Christ. Exposons-nous sans crainte, sans reste, à son amour brûlant. Veillons avec le Fils et laissons l'Esprit du Père faire son œuvre en nous, afin de naître à la miséricorde. Oui, ensemble, devenons le corps du Christ. En tes mains, ô Père, je remets mon esprit. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. In manus tuas, commando spiritum.